C'est lui qui sauve la nature humaine lorsque la civilisation dont il est issu a été condamnée. Alors nous allons voir dans le verset 7. Vayomer Hashem, et Dieu dit, Emre. Regardez bien le mot Emre. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? En français. Hein? J'effacerai. Oui, c'est pas je détruirai, mais j'effacerai. Il y a ici une image très très forte. L'eau du déluge efface la forme de la civilisation. Si c'était un déluge de feu, la nature humaine aurait été détruite. Mais c'est un déluge d'eau. Alors la civilisation est détruite, mais la nature humaine est préservée. Et c'est le récit de ce rescapé qui est le récit de l'histoire de la famille de Noé. Emre, j'effacerai et Adam, l'homme, Asher Barati, que j'ai créé, Me'al Pena Adama, de dessus la face de la terre, Me'adam Adbehema, depuis l'homme jusqu'à la bête, Adremes, et au reptile, Be'adof Hashamaim, et les oiseaux du ciel, Kinihamti, Kiasitim, car je regrette de les avoir faits. Vous voyez la différence entre Barati et Asiti. Et on arrive donc au verset qu'on va étudier aujourd'hui. Venoach matzachen beine Hashem. Et Noach a trouvé grâce aux yeux de Hashem. Alors retenez bien en tout cas ces deux versets. Le début, le verset du début, c'est le verset 5. Et le verset 8 sur Noach. Apprenez-les par cœur ces deux versets. Alors au sujet du verset 5, je voudrais formuler un thème qui me paraît extrêmement important. Je crois que j'y ai fait allusion la dernière fois. C'était une question qui me venait par là. Je crois que c'est toi qui avais posé la question. Oui, j'étais à la même place. C'est que pendant toute cette première histoire de la civilisation, l'homme est jugé sur le problème moral. Il n'est pas encore question de jugement sur le problème religieux. J'insiste parce que spontanément, on pense que toute la Bible ne parle depuis le début que du problème religieux, c'est-à-dire de la relation entre l'homme et Dieu. Mais dans toute cette première histoire, des 10 premières générations, il s'agit du problème moral. Le problème moral, c'est le problème de la relation entre l'homme et l'homme. Alors le problème moral est jugé par Dieu, mais c'est d'abord sur le problème moral que la civilisation est jugée. C'est beaucoup plus tard que va apparaître le problème de la dimension de la relation entre l'homme et Dieu. Ça commencera avec Abraham. Ça ne veut pas dire que à chaque génération, il n'y avait pas à l'échelle individuelle des justes de la relation entre l'homme et Dieu, mais ce n'est pas encore le problème de l'humanité. Ce problème ne commencera qu'après le déluge. Alors retenez bien cela, c'est très important, c'est que dans l'ordre, la Torah indique que c'est le premier problème et le problème moral qui s'oppose à la créature, et c'est en second lieu le problème religieux. Si, je garde le sens que ces mots ont en français, parce que ça traduit des concepts hébreux qui sont un peu différents. Alors je vais vous donner ce schéma. Il y a l'homme est éprouvé dans trois types de situations dans son histoire. Je vais les dire en hébreu et je traduis. Ben Adam Lamakom, entre l'homme et Dieu, la source de l'être qui lui a donné l'être. Ça, dans la civilisation contemporaine, on appelle ça le problème religieux, les relations entre l'homme et Dieu. Ben Adam Lachavero, entre l'homme et son prochain, dans la civilisation contemporaine, on appelle ça le problème moral. Et Ben Adam Lehatzmo, entre l'homme et lui-même, ça correspond au problème spirituel. Alors, le troisième point est moins connu, pour des raisons historiques que je vous expliquerai un jour, parce qu'il s'agit du problème de la relation avec l'identité messianique. C'est ça le problème spirituel. Vous n'êtes pas du tout habitué ni préparé à cela. Simplement, je veux déjà un peu vous indiquer ce qu'il faudra surtout comprendre, c'est pourquoi, dans les derniers siècles, cet aspect de la Torah est devenu caché. Je vais vous donner une réponse globale et très simple. C'est surtout dans le judaïsme de l'Europe, qui était le judaïsme en milieu chrétien, qu'on s'aperçoit de cela. C'est-à-dire qu'on a occulté, on a caché tout ce qui concernait l'enseignement messianique de la Torah. Tout simplement parce qu'on se trouvait dans une civilisation qui se réclamait d'un Messie qui, pour la tradition juive n'est même pas un faux messie, c'est rien du tout. Bon, c'était, disons, un faux messianisme. Alors, à cause du risque d'amalgame des mots, les rabbins, surtout dans le monde ashkénaze, en tout cas dans le monde occidental en général, ont préféré laisser de manière secrète, absolument secrète, ce n'est que récemment qu'on commence un peu à entrouvrir ces choses-là, et on s'aperçoit à quel point tout le monde, pratiquement personne ne sait de quoi il parle, tout ce qui concernait l'identité messianique, à cause du risque de l'amalgame avec le vocabulaire chrétien. Et en particulier en milieu juif traditionnel, à cause de la catastrophe d'un faux messianisme dont vous avez souvent entendu parler, celui de Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi, c'est apparu dans les communautés sfarades, mais européennes. Et ça s'est passé aussi en Europe. Ça vous étudierez d'autre part, mais je veux d'abord revenir sur la définition même de ce... Vous avez dû remarquer cela, mais on en parlera plus tard, que pratiquement personne ne sait de quoi il parle quand il parle des questions messianiques. On ne sait même pas où trouver les sources, où étudier cela. Ça a été intentionnellement caché à cause de ces risques de faux messianisme et surtout de l'ambiance de la civilisation chrétienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point en français on emploie le même mot pour parler de choses radicalement différentes. Lorsque nous disons Mashiach en hébreu et Messie en français, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est le mot qui est censé traduire. Je vais d'abord vous expliquer l'expression hébraïque. Bon, Ben Adam Lamakom, il y a une difficulté, ça vous apprendra un autre jour. Je ne sais pas si vous remarquez à combien d'années d'études je vous renvoie à chaque fois. C'est pourquoi on appelle Dieu Makom. Mais il s'agit effectivement de la relation entre l'homme et Dieu. Le problème religieux. Le problème religieux, dans le sens strict, c'est le problème du culte, de la avoda. Les mitzvot de la Torah qui concernent le culte. C'est ça la religion. Deuxièmement, il y a les mitzvot de la Torah qui concernent la morale. C'est le problème de Ben Adam la Havero. Et notre problème ici, notre question, c'est que la Torah commence par poser le problème moral avant même de faire allusion au problème religieux. Ne vous trompez pas. Il faut d'abord résoudre le problème moral pour pouvoir s'approcher du problème religieux. Si un homme n'a pas encore résolu le problème des valeurs morales, dès qu'il s'approche du problème religieux, il tombe dans l'idolâtrie, dans le paganisme, dans l'impureté absolue. Et ça, il faut vous habituer à cela, parce que c'est un mal qui guette aussi la société juive. Et pas seulement les sociétés non-juives. Vous avez dû remarquer à quel point il y a un nombre effarant de consciences religieuses dans le monde qui sont des purs païens. Et ça, c'est un sujet qu'il faudrait aussi étudier très en détail. Pourquoi l'histoire des religions a commencé par le paganisme? Ce qui est aussi un sujet d'étonnement que la Torah explique, d'ailleurs, très, très, très simplement. C'est un des sourcils dont je vous ai parlé, non, dont je n'ai pas parlé, que je vous ai indiqué, c'est précisément la naissance de Enoch, le fils de Seth. Bon, vous verrez ce que les commentateurs disent à ce sujet. Et alors, troisièmement, la relation entre l'homme et lui-même, c'est comme ça qu'on traduit habituellement Ben Adam le Atzmo. On va faire un peu de grammaire hébraïque. Ben Adam le Atzmo, ça désigne ce qu'on appelle le pronominal. Donne-moi un exemple des conduites de l'homme dans l'ordre de mitzvot ben adam le'atzmo, dans le mitzvot de la Torah. Là, je vous donne un schéma auquel il faut vous habituer. Je m'appuie surtout sur l'enseignement du Maharal qui a renouvelé cela. Habituellement, on divise, par exemple, les 10 commandements en deux tables, les commandements entre l'homme et Dieu, les commandements entre l'homme et son prochain. Mais en réalité, il y a dans la Torah trois dimensions. Les commandements entre l'homme et Dieu, Ben Adam la Makom, entre l'homme et son prochain, Ben Adam la Havero, et Ben Adam le Atzmo, que je vous ai appelé la vie spirituelle. Donnez-moi un exemple d'une mitzvah qui concerne la vie spirituelle, c'est-à-dire autre que la vie religieuse ou la vie morale. Vous allez avoir des surprises par le fait que vous ne répondez pas. Donnez-moi un exemple d'une mitzvah qui régit l'ordre de Ben Adam le Atzmo. Et après, je vous traduis l'expression. Qui c'est qui a de la cache-coute? Hein? Très bien. Mais explique. C'est très bien. Choléra. Tu avais un ancêtre talmudiste? Sûrement. Un juif qui n'a pas d'ancêtre talmudiste, ça n'existe. Tu es de quelle origine? Ça ne m'étonne pas. Quelle, c'est une coïncidence, oui, ça existe. Quelle famille?
Benoliel.
Benoliel, hein, ça c'est Maroc espagnol. Ouais. C'est juste. Alors, il y avait des grands rabbins là-bas. Alors, explique ce que tu as dit. En quoi la cache-coute, c'est Benoliel et Asma? Non, c'est très exact. Le mystère, c'est pourquoi vous n'y avez pas pensé. Donne-moi une réponse. Très bien, très bien. Quand je mange, je me fabrique. Quand je mange, je me fabrique. On devient ce qu'on mange. Et n'ai jamais remarqué ça, que les différentes civilisations se définissent essentiellement aussi, disons, par leur cuisine, par leurs recettes de cuisine. Vous avez énormément de familles juives qui sont restées juives uniquement accrochées à la soupe au vermicelle du vendredi soir, chez les Ashkénazes, et au couscous chez les Sfarades. Non mais, c'est pas une blague. Remarquez comment se reconstitue une communauté lorsqu'elle est transplantée. Autour de l'épicerie, beaucoup plus qu'autour de la synagogue. C'est vrai ou pas? Et au cimetière, bien sûr, mais enfin, d'abord l'épicerie. Et alors vous voyez, lorsqu'on définit la casse-croûte comme une mitzvah religieuse, c'est pas faux, mais c'est pas exact. C'est une mitzvah d'ordre spirituel. Et en fait, dans chacune des trois catégories, il y a aussi le reflet des autres. C'est pas si schématique que je vous ai dit. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des comportements différents. Alors nous allons l'apprendre après l'expression même de Ben Adam le Atzmo. Que veut dire le mot de Etzem en hébreu? Ça a plusieurs sens, mais essentiellement, Etzem. Écoutez, parlez plus fort. Ne me fatiguez pas, répétez toujours la même chose. J'entends pas. Hein? Etzem? Non, tu es tunisienne, toi? En Tunisie, ça veut dire un œuf. Mais. En arabe tunisien, Adam, ça veut dire un œuf. Mais. En hébreu, ou en araméen d'ailleurs aussi. Etzem, c'est un os, mais ça a aussi un autre sens. Etzem? Ma? Qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, tu as dit os? Mais tu prononces à la tunisienne. Je t'ai pas insulté au moins. Alors, quel est l'autre sens du mot Etzem? En français, oui. Ma? Etzem, ça c'est en hébreu moderne, tu as raison. Mais le mot de Etzem a un autre sens en hébreu. Ma? Non, c'est pas ce que je demande. Vous n'avez jamais entendu parler d'une essence, pas le pétrole, l'essence du pétrole, mais quelque chose d'essentiel. Etzem, c'est l'essence. Alors, Ben Adam et Asmo, ça veut dire la relation entre chacun et l'essence de l'homme en lui. À travers chaque lignée humaine, il y a un des projets du Créateur pour l'identité humaine. Il y a un Adam vrai caché, enfoui dans chacun. Alors, la relation entre chacun, ce qu'il est dans l'existence, et Adam en lui. Ben Adam le Atzmo. Ça, c'est le problème spirituel. Alors, on a des devoirs vis-à-vis de l'identité humaine en soi-même. De la même manière qu'on a des devoirs vis-à-vis de l'identité humaine chez l'autre, et qu'on a des devoirs vis-à-vis de la source du Créateur qui nous a donné l'être. Alors ce sont trois secteurs des mitzvot de la Torah qui sont différents. Un, c'est la vie religieuse dans le sens strict, l'autre c'est la vie morale, l'autre c'est la vie spirituelle. Cette troisième dimension a été occultée dans la civilisation européenne, enfin je veux dire non, la tradition juive dans la civilisation européenne, et je vous en donnerai très rapidement les raisons historiques, mais il faut bien réfléchir à ça. Pourquoi je vous ai cité ça, cette halouka, cette différenciation de la Torah entre ces trois secteurs des mitzvot? Pourquoi je vous ai cité ça? Pendant ce temps, je vais dire une bracha, mais réfléchissez bien. vous avez déjà oublié. Mais je vous ai dit qu'il y a le problème religieux, le problème moral, le problème spirituel. Mais que l'ordre chronologique pour l'histoire de l'humanité, c'est d'avoir d'abord résolu le problème moral, ensuite le problème religieux, ensuite le problème messianique, le problème spirituel, c'est-à-dire l'homme authentique qu'il faut finir par engendrer et que les prophètes d'Israël appellent le fils de l'homme, le Ben Adam en majuscule. Ça, nous reviendrons par la suite. Alors voilà la première indication sur le verset 5. Quel est le critère du diagnostic qui a disqualifié cette civilisation humaine? C'est la morale. Alors il est bien évident que ça restera en filigrane dans tout l'enseignement de la Torah. Vous apprendrez beaucoup de vocabulaire à ce sujet dans la suite de l'étude. Alors, dernièrement, deuxième question. Je vais d'abord voir quelle heure il est. Oui. Il est 11h25, c'est ça? 11h ou 10h? 11h25. Bon, on a 5 minutes. Alors, je reprends le verset 8. Prenez le verset. Suivez bien. Ve Noach matzachen be'ene Hashem. Et Noach a trouvé grâce aux yeux de Hashem. Ça veut dire, et je vous cite une source du Talmud qui l'enseigne de manière très claire, que toute l'humanité a été condamnée, y compris Noach, mais que pour des raisons qui nous sont encore obscures, Noach a été sauvé par grâce. C'est le mot de « chen » en hébreu, il n'y a pas d'ambiguïté. « Chen », ça veut dire « je ne mérite pas » et Dieu me gratifie, me donne une grâce. Si je méritais, il ne s'agirait pas de « chen ». Donc, une minute, laisse-moi finir. « Venoar, matzachel menachem » Je vous cite la référence sur laquelle je m'appuie. Ça se trouve dans le Talmud de Sanhedrin, page 108a. C'est un enseignement de Rabbi Ishmael. On enseigne au nom de Rabbi Ishmael Af al Noach Nertam Zardin, même contre Noach était ce verdict, a été décrété ce verdict de la destruction. Et là, chez Matzachen, mais il a trouvé grâce. Et notre problème, c'est de comprendre pourquoi Noach a été sauvé. Pourquoi Dieu a décidé de sauver Noach, puisqu'en principe, on va voir comment c'est prouvé dans le texte, même Noach aurait dû disparaître avec tous les autres. Chez Nehemar, puisqu'il est écrit, c'est la fin du verset 7, « Ki nihamtim, ki asitim ve Noach matzachen » car j'ai regretté de les avoir faits tous, mais Noach a trouvé grâce. Et on va se demander, qu'est-ce qui explique que Noach a trouvé grâce? C'est un problème difficile, parce que précisément la grâce n'a pas de raison. « Chen », ça veut dire que c'est Dieu qui a décidé que Noach sera sauvé par grâce. Il a été gracié, comme on dit en français. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Vous allez voir que ce problème est plus difficile encore qu'on le pense, d'après le verset qui suit, et sur lequel je vais vous demander de réfléchir pendant la Hafsaka. Prenez le verset qui suit, qui est le début de la paracha de Noach. Et les Toldot Noach, voici les engendrements de Noach. Noach, Ish Tzadik Tamimaya. Noach était un homme juste, intègre, Bedorota, dans ses générations, et Elohim Italer Noach. Noach se conduisait avec Dieu. Alors regardez bien la collision de concepts qu'il y a. Premier verset, le verset 8, nous dit Noach Matzachen, Noach a trouvé grâce. Verset suivant, le verset 9, on nous dit que c'était un tzaddik. Vous voyez la contradiction? S'il est tzaddik, alors c'est par le fait qu'il est tzaddik qu'il a été sauvé. Si Dieu l'a sauvé, c'est parce qu'il est juste, il mérite. Non, le verset a dit non, il a trouvé grâce. Et bien qu'on a dit il a trouvé grâce, on nous dit il est quand même sadique. Vous voyez, c'est pas simple. Hein, on va y réfléchir tout à l'heure. Réfléchissons en tout cas au problème. J'ai simplement aussi cité un midrash pour vous montrer cet enseignement de Rabbi Ishmael se base sur énormément d'arguments. Mais retenez bien une chose, on va parler de Noach, on va se permettre de parler de Noach. Et on va même, à l'aide du commentaire de Rashi, le comparer avec Abraham. Un commentaire qu'on va lire tout à l'heure, que si Noach avait vécu dans la génération d'Abraham, il aurait compté pour rien. Seulement, faites bien attention. La Torah dit que Noach était tzaddik. Noach est un grand tzaddik. Nous sommes des microbes à côté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Abraham est encore plus grand. Donc, il y a des niveaux de tzaddik. Benoît est un grand tzaddik. Seulement, qu'est-ce qui pousse Rabbi Ishmael à dire que, bien que tzaddik, il aurait dû être détruit, mais que cependant il a été sauvé, on le verra tout à l'heure. Mais je vais vous donner une indication qu'il y a dans le Zohar, sans vous traduire trop exactement, pour vous montrer à quel point, effectivement, cette manière d'être sadique de Noir, qui est très grande, elle est cependant en question par rapport au salut. C'est-à-dire, il n'a pas suffisamment de mérite pour être sauvé. Il a été sauvé par grâce. Mais il faut savoir qu'il était quand même sadique. Alors, ça nous découvre tout un monde. On peut être sadique et pas comme il faudrait. Et il va falloir s'habituer à cela, ça nous avons reçu de nos maîtres. Il y a des madrigotes, il y a des niveaux en toutes choses. Dans toutes les valeurs et dans toutes les non-valeurs, il y a des madrigotes. Par exemple, les tzadikim, c'est un monde très différent de niveau. Il y a des tzadikim d'un niveau X, etc. Il faut bien s'habituer à cela. Yes, madrigot bakol. Et alors, voilà ce que dit un peu ce midrash du Zohar. Suivez bien sur le texte. Venoir matzachen bene Hashem. Et Noir a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais le Midrash ajoute, mais Dieu n'y a rien trouvé dans les yeux de Noir, même pas une larme. Et effectivement, le texte ne va pas nous dire que, apprenant que Dieu allait détruire le monde, Noir n'a ni prié, ni pleuré. Qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik qui entend cela? La Shoah va arriver et il reste imperturbable. Il se construit une arche. Okay. Et vous voyez le choc. Okay. Je vous le dis en hébreu, comment c'est dans le Midrash. Ou bien est noir, à Kazoubaoukhou, le Matzakloum, à Filou Dima. Et Dima, ça veut dire une larme. C'est les mêmes lettres qu'un mot que vous connaissez beaucoup. C'est le mot de Madoua. Qu'est-ce que ça veut dire Madoua en hébreu? Pourquoi? Noir n'a même pas demandé à Dieu, et pourquoi? Alors qu'Abraham, à propos de Sodome et Gomorre, Abraham va intervenir, il va discuter pied à pied pour essayer de sauver qui? Les gangsters de Sodome et Gomorre. Et Noir, l'humanité entière, ça me revenait en arabe, il construit une arche, et Dieu va lui dire, je détruis tout, d'accord, allez, on construit une arche. Est-ce que vous devinez le problème? Est-ce que vous découvrez le problème? Bien. Et pourtant, il est tzaddique. Alors, de quoi il s'agit? On a remarqué d'ailleurs que le mot de chen, c'est l'inverse que le mot de noir. Est-ce que vous avez appris en physique, en optique? Qu'est-ce que c'est que l'image inversée dans l'œil? Vous avez appris ça? Alors vous voyez, noir dans les yeux de Dieu, c'est chen. Juste l'inverse. Vous avez appris ça en optique. Bon. Alors vous allez prendre 5 minutes de temps, de réfléchissez donc à tout à l'heure. De ces deux versets, c'était le verset 8 du chapitre 6. Qui termine la paracha de Bereshit, et le verset 9 qui commence la paracha de Noir. Alors je relis les deux versets. Le verset 8 du chapitre 6, suivez bien sur votre livre. Ve Noir matzachen beene Hashem. Et Noir a trouvé grâce aux yeux de Hashem. Alors je voudrais vous expliquer très rapidement le problème qui va se poser à nous. Le fait que la grâce soit gratuite, ça ne signifie pas qu'elle est arbitraire. Arbitraire, ça veut dire sans raison, comme si c'était le résultat d'un caprice. C'est-à-dire, on va apprendre dans la suite du texte qu'il y a une raison pour laquelle c'est Noir qui est sauvé, et pas d'autres justes qui pouvaient y avoir à la même génération. Et effectivement, ça, nous le savons d'autre part. Il y avait d'autres justes, d'autres tzadikim dans la génération, en particulier un de ces tzadikim qui est un ancêtre de Noir et qui est indiqué par le texte et qui est Metushelah. Metushelah, on traduit en français par Matusalem, mais Metushelah est un grand tzadik. Il y a d'ailleurs un des sursis que je vous ai indiqué, je vous ai donné la référence, c'est les 7 jours de deuil de Metushelah, où Dieu a donné un sursis supplémentaire à l'humanité après le 6e sursis qui était les 120 années pendant lesquelles Noir a construit l'arche. Et Dieu a ajouté 7 jours à ce sursis de 120 années. Et à ce propos, on apprend que Metushelah était un tzaddik Et donc la question est, parmi tous les tzadikim de ce temps-là, pourquoi c'est Noir qui a été choisi? Eh bien, la première indication qui nous est donnée par les sources, c'est que les contemporains de Noir, et même pas Noir lui-même, ne pouvaient comprendre pourquoi c'est lui qui est sauvé. Il y a des raisons que Dieu seul connaît à l'avance, parce que ces raisons ne se dévoileront que dans la descendance de Noir. Mais au niveau des contemporains, cela apparaît comme une grâce totale et absolue. Grâce, ça veut dire, c'est gratuit. Il n'y a aucun mérite qui explique pourquoi Noir sera mis à l'abri du déluge. Et là, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Je suis gratifié. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de raison. La notion qu'il faut retenir, c'est est-ce qu'une grâce est forcément arbitraire? Alors la grâce n'est pas arbitraire. La grâce est motivée, mais elle est cependant gratuite. Les raisons qui font que Noir est sauvé ne viennent pas de Noir lui-même, en tout cas directement. Ça vient du fait que Noir portait en lui Abraham. Et alors ça c'est une notion qu'il faut récupérer, qui est très difficile à cerner dans la culture contemporaine. Comment comprendre que Noir est un mérite qui le dépasse lui-même, qui ne le concerne pas directement. C'est un mérite pas au niveau des actes. Au niveau des actes, aucun acte de Noir n'est suffisamment méritant pour lui faire mériter le salut, cette grâce. Mais au niveau de son être, dans son être, il y a la possibilité de l'engendrement d'Abraham. Il y a une expression dans le Talmud, je l'ai dit pour ceux qui comprennent en hébreu, d'ailleurs c'est de Ramer, le Talmud dit « Bera mezake abba ». Il arrive que le fils fasse mériter le père. C'est une idée qui est inhabituelle dans la culture générale. C'est-à-dire les pères tiennent entre leurs mains le sort, les fils tiennent entre leurs mains le sort de leur père. Ça veut dire on ne jugera finalement quelqu'un que lorsqu'il sera avéré ce qu'est devenu sa propre descendance. Donc il y a dans la descendance les véritables attendus du jugement des ascendants. Réfléchissez par vous-même à ce principe. La responsabilité que les descendants ont vis-à-vis de leurs ascendants. Je vais vous donner un petit exemple, apparemment dans un domaine complètement différent. Et vous allez comprendre à quel point c'est important de découvrir cela. On ne peut vraiment juger quelqu'un que si on connaît toutes les conséquences de ce qu'a été sa conduite. Et on a déjà rencontré ça à propos de Caïn et son descendant Toubal-Caïn. C'est Toubal-Caïn qui disqualifie Caïn. Vous vous rappelez de cela, hein? On ne sait vraiment qui est Caïn et que Caïn est vraiment assassin que lorsqu'il s'avère que dans sa descendance, il y a un fabricant d'armes. Et c'est la première arme fabriquée par Toubal-Caïn qui a tué le premier assassin qui était Caïn. Vous vous rappelez qu'on a appris cela? C'est une toute autre notion. Pour le moment, je parle de tout à fait autre chose. Ne mélangez pas. Okay? Et pour le moment, je parle exactement de l'idée inverse. Alors ne mélangez pas. Mets ça de côté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la notion de jugement. Le véritable jugement, c'est le jugement dernier. Ce n'est que lorsque toutes les conséquences d'une conduite se sont dévoilées qu'on peut effectivement juger ce qu'il y a eu au commencement. Alors je répète la formule du Talmud, Bera, une expression araméenne qui veut dire le fils, Mezake fait mériter Abba, le père. Je vous donne un exemple que vous êtes un peu familier et après je vous dirai quel exemple je voulais vous donner. Abraham, par Sarah, a une descendance qui passe par Isaac. Et cette descendance d'Abraham par Isaac mène à Israël. Alors que ce même Abraham, dans sa période antérieure de sa vie, comme nous le verrons en détail, alors qu'il s'appelait encore Abraham, avec Agar, a eu Ishmaël. Alors Abraham, père d'Ishmaël, ne va pas être jugé de la même manière que Abraham, père d'Isaac. Ça veut dire, si il n'y avait que la lignée d'Ishmaël, eh bien, nous aurions, c'est fictif ce que je dis là, puis c'est pas ça qui s'est passé dans l'histoire, dans la réalité, nous aurions un Abraham qui aurait mené à l'islam. Mais par la lignée d'Isaac, nous avons un Abraham qui a mené à Israël.